אהרון אפלפלד.
הסבל כידוע הוא דבר...
La douleur, la souffrance, comme on le sait, peut détruire quelqu'un.
סבל בתנאים מסוימים.
Mais aussi parfois l'élever au-dessus de lui-même.
Ça peut pas faire de mal.
אני לא רוצה לומר שהסבל שלי...
Je ne veux pas dire que la souffrance que moi j'ai vécue m'a élevée vers de hautes sphères, mais elle m'a appris beaucoup sur l'homme, sur son caractère, ses instincts, bas, et sa noblesse aussi.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
La Seconde Guerre mondiale dura 6 années. Parfois, il me semble que ce ne fut qu'une longue nuit dont je me suis réveillé différent. Parfois, il me semble que ce n'est pas moi qui ai connu la guerre, mais un autre. Quelqu'un de très proche, destiné à me raconter précisément ce qui s'était passé. Car je ne me souviens pas de ce qui est arrivé, ni comment. Je dis « je ne me souviens pas » et c'est la stricte vérité. Ce qui s'est gravé en moi ces années-là, ce sont principalement des sensations physiques très fortes. Le besoin de manger du pain. Aujourd'hui encore, je me réveille la nuit affamé. Des rêves de faim et de soif se répètent chaque semaine. Je mange comme seuls mangent ceux qui ont eu faim un jour, avec un appétit étrange. Durant la guerre, je suis allé dans des centaines de lieux, de gares, de villages perdus, près de cours d'eau. Chaque lieu avait un nom. Je n'en ai aucun souvenir. Les années de guerre m'apparaissent tantôt comme un large pâturage qui se fond avec le ciel, tantôt comme une forêt sombre qui s'enfonce indéfiniment dans son obscurité, parfois encore comme une colonne de gens chargés de ballots dont quelques-uns tombent régulièrement et sont piétinés. Tout ce qui s'est passé s'est inscrit dans les cellules du corps et non dans la mémoire. Les cellules, semble-t-il, se souviennent mieux que la mémoire, pourtant prédestinées à cela. De longues années après la guerre, je ne marchais ni au milieu du trottoir, ni au milieu de la route, mais je rasais les murs, toujours dans l'ombre, et toujours d'un pas rapide, comme si je fuyais. Je ne suis pas enclin à pleurer en général, mais des séparations insignifiantes me font sangloter violemment. J'ai dit « je ne me souviens pas », et pourtant je me souviens de milliers de détails. Il suffit parfois de l'odeur d'un plat, de l'humidité des chaussures ou d'un bruit soudain pour me ramener au plus profond de la guerre. Et il me semble alors qu'elle n'a pas pris fin, qu'elle s'est poursuivie à mon insu. Et à présent que l'on m'a réveillé, je sais que depuis qu'elle a commencé, elle n'a pas connu d'interruption. Paru en 1999 en Israël et 5 années plus tard en France, « Histoire d'une vie », raconte la vie d'un enfant juif d'Europe de l'Est qui perd tout et finit par laisser derrière lui une 40aine de romans, une œuvre dense et magnifique. Lorsque la guerre éclate, le petit Erwin, son prénom de naissance, a 7 ans et vit un bonheur paisible avec ses parents. Avec la guerre, tout s'effondre. Sa mère est assassinée. Il rejoint le ghetto, puis les camps, d'où il parvient miraculeusement à s'évader. Commence alors une longue errance solitaire, marquée par la peur permanente d'une dénonciation, le froid et la faim. À la fin de la guerre, orphelin et sans attache, il suit le chemin de nombre de ses compatriotes et part pour la Palestine, où il commence à écrire en hébreu, devenu sa langue d'écriture. Disparu en 2018 à l'âge de 85 ans, l'écrivain israélien Aaron Appelfeld n'eut de cesse de chercher les mots justes pour traduire ce qu'il nommait sa légende intime. Il nous laisse une œuvre d'une humanité rare qui, tout en nommant les violences des hommes, fait l'éloge de la douceur. Écoutons la voix de celui qui porta toute sa vie l'enfant de la guerre en lui et découvrons l'émouvante histoire d'une vie qui éclaire son œuvre entière et pour lequel il reçut en 2004 le prix Médicis. Entamons cette exploration de la mémoire par ses plus lointains souvenirs, plusieurs années avant la guerre. Nous sommes en Bucovine, entre l'Ukraine et la Roumanie, et l'auteur savoure les heures passées aux côtés de sa mère, avec qui il partage le goût de la contemplation. Les souvenirs sensoriels nous transportent depuis la demeure de ses parents jusqu'à la maison de campagne de ses grands-parents maternels. C'est le temps de l'innocence et de la douceur de vivre au sein d'une famille unie. L'époque bienheureuse et révolue où les crins de la maison étaient là pour le protéger. Où commence ma mémoire ? Parfois, il me semble que ce n'est que vers 4 ans, lorsque nous partîmes pour la première fois, ma mère, mon père et moi, en villégiature dans les forêts humides des Carpates. D'autres fois, il me semble qu'elle a germé en moi avant cela, dans ma chambre, près de la double fenêtre ornée de fleurs en papier. La neige tombe et des flocons doux, cotonneux, se déversent du ciel. Le bruissement est imperceptible. De longues heures, je reste assis à regarder ce prodige jusqu'à ce que je me fonde dans la coulée blanche et m'endorme. Plus clairs encore sont les souvenirs des promenades printanières le long du fleuve, sur les chemins, à travers champs et dans les prés. Parfois, nous gravissons une colline et une fois au sommet, nous nous asseyons pour contempler le paysage. Mes parents parlent peu et semblent aux aguets. C'est plus manifeste chez maman. Lorsqu'elle écoute, ses grands yeux s'écarquillent, comme si elle désirait s'imprégner de tout ce qui l'entoure. À la maison aussi, le silence est plus prégnant que la parole. De ces jours lointains et enfouis, il ne reste aucune parole dans ma mémoire, seulement les regards de ma mère. Ils contenaient tant de douceur et d'attention à mon égard que je les sens aujourd'hui encore. Notre maison est grande et compte de nombreuses pièces. Un balcon donne sur la rue et l'autre sur le jardin public. Les rideaux sont longs, ils effleurent le parquet. Et lorsque la bonne les change, une odeur d'amidon se répand dans toute la maison. Mais plus encore que les rideaux, j'aime le sol, ou plus exactement, le tapis qui le recouvre. Sur ces fleurs brodées, je construis avec de grands cubes des maisons et des rues que je peuple d'ours en peluche et de chiens de plomb. Le tapis est épais et doux. Je m'y enfonce de longues heures en imaginant que je voyage en train, traverse des continents et accoste au village de grand-mère où nous nous rendons l'été. À la campagne, chez mes grands-parents, les jours sont longs et s'enfoncent profondément dans les nuits blanches. Il n'y a pas de tapis, juste des nattes. Même dans la chambre d'amis, une natte est étendue. Lorsque le pied l'effleure, un bruissement sec se fait entendre. Maman est assise près de moi et coupe une pastèque. Au village, il n'y a pas de restaurant ni de cinéma. Nous restons assis tard dans la cour et accompagnons le coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit. Je m'efforce de rester éveillé, mais je m'endors finalement. Mais bientôt, l'antisémitisme gagne du terrain, assombrissant le quotidien de la famille. Nous voici en 1937, le narrateur est alors âgé de 5 ans et nous faisons connaissance avec l'oncle Félix, figure charismatique de son enfance. Homme pieux et instruit, cet ex-officier de l'armée autrichienne, qui est en fait l'oncle de sa mère, affrontera les jours sombres avec une imparable, incroyable dignité à toute épreuve. Découvrons l'hommage touchant que lui dédie l'auteur, qui retrouve alors ses yeux d'enfant. Les séjours chez l'oncle Félix font partie de mes plus fortes impressions d'enfance. Dans sa propriété, tout était différent, même les arbres. Ils étaient plus hauts que les arbres que je connaissais, l'herbe plus grasse, les domestiques si grands qu'ils touchaient le plafond. La vie de l'oncle Félix et de sa propriété était une légende. Dans la propriété, le silence était épais, sans être total. La nuit, les oiseaux de proie poussaient des cris stridents et les loups hurlaient. À l'été 1937, la vie changea du tout au tout. Le régime devint antisémite. Les gendarmes collaboraient avec la racaille et la pègre. Les clôtures étaient défoncées et chaque nuit, il y avait de nouveaux vols. L'oncle Félix, qui avait vécu là depuis son adolescence, avait construit la maison, fait prospérer les champs et les forêts et prenait aussi part à la société non-juive, essaya non seulement de tenir le coup, mais opposa une farouche résistance. Il sortait la nuit son chapeau de feutre sur la tête afin de chasser les voleurs. De mois en mois, la situation empira. Au début, il eut à se battre contre les voleurs et les brigands. Lorsqu'il s'avéra que ces derniers avaient pactisé avec les gendarmes, il se battit contre les gendarmes. Mais quand le préfet se joignit à ses adversaires, Il n'eut d'autre solution que d'entasser les biens de sa maison dans un camion après avoir loué sa propriété pour une bouchée de pain. En ville, il habitait près de chez nous dans un appartement qu'il louait et nous rendait visite une à deux fois par semaine. Il ne revêtait plus le beau costume qu'il avait l'habitude de porter dans sa propriété. L'oncle nous transmit la majeure partie de sa collection d'art. Les tableaux modifièrent l'aspect de notre maison qui se mit à ressembler un peu à un musée. Maman était très fière de cette collection et le peu d'amis que nous avions venaient l'admirer. L'oncle Félix garda son sang-froid jusque dans les jours amers. Un propriétaire terrien ukrainien, connaissance de longue date, proposa de le cacher chez lui, mais il refusa. La collection d'art de l'oncle fut confiée à un banquier avec la promesse d'en prendre soin jusqu'à ce que la tempête passe. On ne revit plus jamais ce trésor. Lors de la marche de la déportation sur les longues routes au cœur de la plaine ukrainienne, il aida à enterrer les corps afin qu'ils ne servent pas de nourriture aux rapaces. Lui-même succomba au typhus dans une grange, et papa, qui souhaitait l'enterrer, ne trouva pas de bêche. Nous le déposâmes sur une botte de foin. Finalement séparé des siens, Erwin entame sa longue errance solitaire. En 1940, sa mère est assassinée par les autorités roumaines. Installé dans le ghetto avec son père, ils sont ensuite conduits vers les camps lors d'une marche forcée de 2 mois. Mais à l'automne 1942, le garçon parvient à s'enfuir du camp où il est détenu. Dès lors commence sa vie d'orphelin et de bête traquée. Dans le passage qui suit, l'auteur nous restitue un souvenir heureux qui en entraîne un bien plus sombre, la disparition de sa mère 2 ans plus tôt. De mon entrée dans la forêt, je ne me souviens pas, mais je me rappelle l'instant où je me suis retrouvé là-bas, devant un arbre couvert de pommes rouges. J'étais si stupéfait que je fis quelques pas en arrière. Mon corps se souvient mieux que moi de ce pas en arrière. Chaque fois que je fais un faux mouvement du dos ou que je recule, je vois l'arbre et les pommes rouges. Cela faisait plusieurs jours que je n'avais pas mangé, et voici que se dressait devant moi un arbre couvert de fruits. Je n'avais qu'à tendre la main et à cueillir. Mais je restais debout, paralysé par la surprise. Et plus je restais ainsi, plus la paralysie augmentait. Finalement, je m'assis sur place et mangeai une petite pomme à moitié pourrie qui était tombée au sol. Après avoir mangé, je m'endormis. À mon réveil, le ciel rougeoyait déjà. Je ne savais que faire et me mis à genoux. J'ai encore aujourd'hui la sensation de cette position. Et chaque fois que je m'agenouille, je me souviens du coucher du soleil qui rougeoyait entre les arbres et j'ai envie de me réjouir. Ce n'est que le lendemain que je cueillis une pomme de l'arbre. Elle était dure, acide, et la mordre me fit mal aux dents. Mais je la mordis encore et encore, et la chair du fruit pénétra dans mon œsophage contracté. Après avoir été affamé pendant des jours, l'homme cesse d'avoir faim. Je ne bougeais pas. Il me semblait qu'il m'était interdit de quitter le pommier ainsi que le fossé près de lui. Mais la soif m'arracha au fossé et je partis chercher de l'eau. Je cherchai une journée entière, et ce n'est que vers le soir que je trouvai un ruisseau. Je m'agenouillai et bus. L'eau dessilla mes yeux et je vis ma mère, qui avait disparu depuis longtemps. Je la vis d'abord debout, près de la fenêtre, en contemplation, comme elle en avait l'habitude. Mais soudain, elle tourna son visage vers moi, étonnée que je fusse seule dans la forêt. J'allais me diriger vers elle, mais je compris aussitôt que si je m'éloignais, je perdrais le ruisseau et je demeurais sur place. Je regardai à nouveau le petit cercle dans lequel maman m'était apparue et il se referma. Ma mère fut assassinée au début de la guerre. Je n'ai pas vu sa mort, mais j'ai entendu son seul et unique cri. Sa mort est profondément ancrée en moi. Et plus que sa mort, sa résurrection. Chaque fois que je suis heureux ou attristé, son visage m'apparaît. et elle, appuyée à l'embrasure de la fenêtre, semble sur le point de venir vers moi. À présent, j'ai 30 ans de plus qu'elle. Pour elle, les années ne se sont pas ajoutées aux années. Elle est jeune, et sa jeunesse se renouvelle toujours. La peur que le ruisseau m'échappe était infondée. Je le longeais, et à ma grande chance, son cours s'étendait jusqu'à l'orée de la forêt. Dans la forêt, personne ne meurt de faim. Voici un buisson de mûres, et là, sous le tronc d'arbre, un plant de fraises des bois. Je trouvais même un poirier. Sans le froid de la nuit, j'aurais dormi plus. À cette époque, je n'avais pas encore une vision précise de la mort. J'avais déjà vu de nombreux morts dans le ghetto et le camp, et je savais qu'un mort ne se relevait pas, que sa finalité était d'être jeté dans un trou. Et malgré cela, je ne percevais pas la mort comme une fin. J'espérais sans relâche que mes parents viendraient me chercher. Ce fol espoir m'accompagna durant toutes les années de la guerre. Il s'élevait de nouveau en moi chaque fois que le désespoir posait ses lourds sabots sur moi.
Il me revient en mémoire, il me revient une histoire, il me revient des images, un village, mon village. Il me revient en mémoire, je sais pas, comme un songe, cette histoire. Et voilà qu'au loin s'avance mon enfance, c'était, je crois, un dimanche, c'était, je crois, en novembre, qu'importe, mais je revois l'usine, oui, l'usine, ça dessine. Surgit du livre d'images, un ciel gris d'acier, une angoisse, et des pas lourds qui se traînent, et des ombres qui s'avancent. C'était, j'en suis sûr, un dimanche, c'était, j'en suis sûr, en novembre, et se détache une image, un visage. Ton visage, où allais-tu sur cette route, comme une armée en déroute, et tout devient transparence, et tu deviens une absence, tout me revient en mémoire, le ciel et novembre et l'histoire. Et les pas qui se rapprochent et s'avancent en cadence. Toi, où es-tu, je te cherche. Où es-tu, je te cherche. Toi, mon passé, ma mémoire. Toi, ressorti de l'histoire, qui était, j'en suis sûr, un dimanche. En novembre. Ton visage, toi, sur cette route figée, et les ombres qui se rapprochent, et les ombres qui te frappent et t'emportent. Il me revient des images, ce village, ton visage, toi seul sur cette route. Et les pas qui se rapprochent, en cadence,
Voyons comment l'enfant de 10 ans organise sa miraculeuse survie. En quelque temps, l'enfant de 7 ans, entouré de chaleur et d'amour, s'est donc retrouvé orphelin de mère, puis sans famille. Il lui faut alors apprendre à se débrouiller seul, en affrontant la peur quotidienne d'être repris, le froid et la faim. Replié sur lui-même, il fait de la nature et du silence ses alliés durables. Rapidement, j'appris que mieux valait éviter de parler et que si une question était posée, il fallait y répondre brièvement. Pendant la guerre, j'élevais la méfiance au rang d'un art. Avant de m'approcher d'une maison, d'une étable ou d'un tas de paille, je me baissais et j'écoutais parfois des heures. D'après les bruits, je savais s'il y avait des gens et combien. Les gens étaient toujours un signe de danger. J'ai passé une grande partie de la guerre étendu sur le sol, à l'écoute. J'ai appris entre autres à écouter les oiseaux. Ce sont de merveilleux augures pour signaler non seulement les pluies qui approchent, mais aussi les gens mauvais et les prédateurs. Durant mes errances dans les champs et les forêts, j'ai appris à préférer la forêt aux champs ouverts, l'écurie à la maison, les porteurs d'une tare aux hommes sains, les hommes chassés de leur village aux soi-disant honnêtes propriétaires. Parfois la réalité me désavouait, mais la plupart du temps mes soupçons se révélaient fondés. Au fil des jours, j'appris que les objets et les animaux étaient de vrais amis. Dans la forêt, j'étais entouré d'arbres, de buissons, d'oiseaux et de petits animaux. Je n'avais pas peur d'eux. J'étais sûr qu'ils ne me feraient aucun mal. Avec le temps, je me familiarisais avec les vaches et les chevaux. Ils me procurèrent la chaleur que j'ai conservée en moi jusqu'à ce jour. Parfois, il me semble que ce ne sont pas des hommes qui m'ont sauvé, mais des animaux qui s'étaient trouvés sur mon chemin. Les heures passées auprès de chiots, de chats ou de moutons furent les plus belles heures de la guerre. Je me serrais contre eux jusqu'à en oublier qui j'étais. Je m'endormais près d'eux. Et mon sommeil était alors paisible et profond, comme dans le lit de mes parents. Aaron Appelfeld.
J'étais un enfant poursuivi. Et je savais que si on découvrait que j'étais juif, on me tuerait. Peu importe qui. J'ai eu de la chance. J'étais d'aspect blond, très blond, et je parlais très bien l'ukrainien. Et je ne portais pas de signes extérieurs qui auraient pu me dénoncer comme juif. J'ai fait la guerre en tant qu'enfant ukrainien. C'est ce qui m'a sauvé.
La venue de l'hiver contraint bientôt le fugitif à chercher un asile. Assistons à son étonnante rencontre avec la dénommée Maria, un personnage au nom de Madone, mais aux mœurs pas très chastes. Cet épisode se déploie dans le livre intitulé « La chambre de Mariana ». Au bout de quelques instants, la porte s'ouvrit sur une jeune femme. « Que veux-tu, petit ?»« Travailler, » dis-je. Elle m'observa et dit « Entre. » Elle ressemblait à une paysanne, pourtant elle était différente. Elle portait une chemise verte avec des boutons de nacre. Je parlais ukrainien, car Victoria, notre bonne, me parlait dans sa langue maternelle. Je l'aimais, et j'aimais sa langue. Ce n'est pas pour rien que la femme qui me fit entrer dans la hutte me rappelait Victoria, bien qu'il n'y eût aucune ressemblance entre elles. « Que fais-tu ici ? » demanda-t-elle. L'instinct me murmura de ne pas lui révéler la vérité, et je lui racontai que j'étais natif de Lutchinets, que mes parents avaient été tués durant le bombardement et que j'errais depuis. Elle me regarda, et il me sembla un instant qu'elle allait m'attraper par mon manteau et me gifler. Cette fois-là, ce fut une peur infondée. « Tu ne voleras pas ? » demanda-t-elle avec un regard scrutateur. « Non, » répondis-je. Et c'est ainsi que je restai chez elle. J'ignorais qui elle était et en quoi consisterait mon travail. Dehors tombait une pluie battante et j'étais heureux d'être entouré de murs près d'un poêle qui répandait de la chaleur. Les fenêtres étaient petites, encadrées de rideaux de couleur, et sur les murs il y avait un nombre impressionnant de photos découpées dans les magazines. Dès le lendemain, je passais le balai dans la maison, lavais la vaisselle, épluchais les pommes de terre et coupais du chou rouge. Je me levais tôt et travaillais jusque tard dans la nuit. Une fois par semaine, j'allais au magasin lui acheter du sucre, du sel, de la charcuterie et de la vodka. Il y avait 1 heure et demie de marche de la chaumière au village. C'était un chemin vert parsemé de grands arbres et de bétail. À peine 6 mois auparavant, j'avais des parents. À présent, mon existence n'était plus que ce qui se déroulait devant mes yeux. Je volais quelques instants pour m'asseoir au bord d'un ruisseau. Ma vie antérieure était si loin qu'elle semblait n'avoir jamais existé. Il fallait attendre la nuit pour que, dans mon sommeil, je me retrouve avec ma mère et mon père dans la cour ou dans la rue. Le réveil au matin me faisait l'effet d'une gifle. La maîtresse des lieux s'appelait Maria et elle vivait seule. Presque chaque nuit, un homme entrait dans la chaumière et il s'isolait derrière le rideau. Il commençait par parler et boire de la vodka. Puis il riait fort et finissait par se taire d'un coup. La scène se rejouait dans le même ordre nuit après nuit. Je me répétais « N'aie pas peur ». Et cependant j'avais peur. Parfois une sorte de plaisir étrange accompagnait la peur. La nuit ne s'achevait pas toujours dans le calme. De temps en temps une dispute éclatait. Maria avait la langue bien pendue. Lorsque quelque chose lui déplaisait, ou qu'elle avait l'impression de se faire avoir, elle élevait une voix menaçante et faisait trembler les murs de la hutte. Et si ce n'était pas suffisant, elle jetait une assiette, une chaussure ou tout autre objet qui lui tombait sous la main. Mais il y avait aussi des nuits où la rencontre se terminait dans le calme, par des baisers. L'homme promettait beaucoup d'amour et beaucoup de cadeaux, et Maria, de son côté, minaudait. Je m'allongeais près du poêle et les épiais. Parfois, je ne me retenais pas et j'espionnais par les fentes entre les planches au-dessus du poêle. J'avais si peur que je ne pouvais rien distinguer, mais une fois, je vis Maria entièrement nue. Un plaisir chaud m'inonda. La guerre finie, écoutons le terrible témoignage d'un homme revenu du camp ukrainien de Kaltchoum, réputé pour son abomination. Chassé par Maria dans ses accès de fureur, le jeune Erwin se cache tantôt dans la forêt, tantôt chez les paysans qui l'exploitent sans vergogne. Après plusieurs années auprès des partisans, une bande de résistants juifs repliés dans la forêt, il rejoint l'Italie à la fin de la guerre et séjourne parmi d'autres rescapés en transit. C'est là qu'il fait la connaissance d'un homme décidé à témoigner des abominations alors que la plupart choisissent de se taire. C'était un petit homme solide et large d'épaules, auquel la guerre n'avait rien ôté de sa robustesse. Son visage était rugueux comme celui d'un boxeur. Son attitude disait « Je suis prêt pour une autre guerre ». Il ignorait apparemment l'interdiction décrétée par les réfugiés de toute évocation de cette horreur. Ils tentèrent de l'arrêter au début, mais il ne comprit pas ou les ignora. Et il s'entêta à raconter. L'enclos Kefer était une partie indissociable du camp de Kaltchoum. Et de certains endroits, on pouvait le voir presque entièrement. C'était l'enclos des chiens-loups utilisés pour monter la garde, pour la chasse et principalement pour les chasses à l'homme. On faisait venir des chiens dressés d'Allemagne. Ils étaient soignés par les gardiens et les officiers. Le soir, on les sortait pour les chasses à l'homme et tous voyaient alors combien ils étaient grands et fiers et combien ils ressemblaient plus à des loups qu'à des chiens. Kaltchoum était un camp de travail métallurgique où l'on fabriquait des munitions. Seuls les hommes forts y étaient amenés. Et malgré les conditions difficiles, ils tenaient le coup 1 an, parfois plus. Si des femmes faisaient partie du convoi, elles étaient frappées et renvoyées là d'où elles venaient. Une fois, quelques vieilles femmes furent amenées et aussitôt exécutées. Un jour, arriva un convoi dans lequel se trouva des petits-enfants. Le commandant du camp ordonna de les déshabiller et de les pousser dans l'enclos. Les enfants furent dévorés aussitôt, apparemment, car nous n'entendîmes pas de cris. Et cela devint une habitude. Chaque fois qu'arrivaient au camp des petits-enfants, et il en arrivait quelques-uns chaque mois, ils étaient déshabillés et poussés dans l'enclos. Un jour, il se passa une chose étonnante. Les chiens dévorèrent leurs victimes à l'exception de 2 d'entre elles. Et plus encore, les enfants étaient debout et les caressaient. Les chiens semblaient contents. Et les gardiens prirent l'habitude de jeter des morceaux de viande aux chiens et des bouts de pain et de fromage aux enfants. Le commandant du camp faisait visiter l'enclos à ses invités. Mais l'enclos, en fin de compte, n'était pas un lieu sûr. Des chiens-loups sont des chiens-loups. Si on les affame, ils ne connaissent pas la pitié. Même des enfants qui étaient dans l'enclos depuis plusieurs semaines furent dévorés. S'il n'y avait eu l'enclos, le camp de Kaltchoum aurait été considéré comme supportable, mais l'enclos faisait de ce camp de travail un camp de la mort. À Kaltchoum, les gens n'étaient pas exécutés, mais la vision des enfants conduits vers leur mort était aussi notre défaite. Rien d'étonnant à ce que les suicides y fussent nombreux. Ce fut ainsi jusqu'à l'arrivée des Russes. Lorsque l'armée rouge entra dans le camp, il y avait deux enfants dans l'enclos. On les fit sortir et on les emmena au bureau des enquêtes. Les enfants étaient ahuris. Ils balbutièrent quelques syllabes hachées, haussèrent les épaules, et l'un d'eux trépigna, mais aucune phrase ne sortit de leur bouche. Les enquêteurs essayèrent de leur parler en yiddish et en polonais. Finalement, un vieil homme fut amené au baraquement et il essaya de les amadouer en hongrois. Tout cela en vain. Les enfants avaient été sauvés, mais leur langue avait été mutilée. Aaron Appelfeld.
Le massé haïti ilem.
J'étais finalement muet.
Parce que
toutes les années de guerre, je me suis efforcé de ne pas parler. Et quand j'en suis sorti, après la guerre, quand je suis sorti sur les routes avec les réfugiés, je ne savais pas parler.
Et
je me suis étonné du fait que des gens parlent. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? De quoi parle-t-il ? J'étais totalement muet.
La guerre finie, suivant le narrateur, âgé de 14 ans, embarqué vers une nouvelle terre, une nouvelle vie et une nouvelle langue. En 1946, notre jeune rescapé embarque pour Israël. Après des années de mutisme, sans parler ni l'allemand, sa langue maternelle, ni le yiddish, la langue de ses grands-parents, le narrateur est sommé d'apprendre l'hébreu. Des années avant que cette langue ne devienne celle de sa légende intime, son apprentissage est une lutte. Sur le bateau et ensuite dans le camp où nous fûmes parqués par les Anglais, nous apprîmes quelques mots d'hébreu. Ils avaient une sonorité exotique mais étaient difficiles à prononcer. Il n'y avait aucune chaleur en eux. Leur son n'éveillait aucune association, comme s'ils étaient nés dans le sable qui nous entourait de toutes parts. Plus grave encore, ils résonnaient comme des ordres. Travailler, manger, ranger, dormir. Il ne s'agissait pas d'une langue que l'on parlait doucement, mais d'une langue de soldat. Dans les kibboutzim et les camps de jeunesse, la langue était imposée de force. Celui qui parlait dans sa langue maternelle était blâmé, mis à l'écart et parfois puni. Je n'ai jamais été bavard, mais même le peu qui sortait de ma bouche était ravalé. Je me repliais de plus en plus. La première année en Israël ne fut pas pour moi une sortie vers le monde, mais un repli, de plus en plus crispé sur moi-même. La première année, nous travaillâmes dans les champs et apprîmes l'hébreu, la Bible et des poèmes. Les images de la maison et les sons de la langue qu'on y parlait disparaissaient et la nouvelle langue ne prenait pas racine facilement. Il y avait des jeunes gens qui avaient adopté facilement les clichés hébraïques, usaient des mots comme s'ils étaient nés là. Mais en ce qui me concerne, la prononciation d'un mot me coûtait de grands efforts, sans parler d'une phrase tout entière. Parfois, j'allais à Jaffa, ou plus exactement à Jabalia, où habitaient quelques parents à moi et des gens que j'avais connus avant la guerre. Auprès d'eux, ma langue maternelle sortait un instant de sa geôle. Pour surmonter le mutisme et le bégaiement, je lisais beaucoup dans les deux langues que je savais lire alors, l'allemand et le yiddish. Je me répétais des phrases entières pour retrouver le flux de la parole. Mais ma langue d'alors était faite de mots et non de phrases. Ces mots étaient les cris étouffés d'un adolescent aphasique qui avait perdu toutes les langues qu'il savait parler. Sans langue, tout n'est que chaos, confusion et peurs infondées. Sans langue maternelle, l'homme est infirme. L'effort pour conserver ma langue maternelle dans un entourage qui m'en imposait une autre était vain. Elle s'appauvrissait de semaine en semaine, et à la fin de la première année, il n'en demeura que quelques brandons sauvés des flammes. Cette douleur n'est pas univoque. Ma mère avait été assassinée au début de la guerre, et durant les années qui suivirent, j'avais conservé en moi son visage, en croyant qu'à la fin de la guerre, je la retrouverais, et que notre vie redeviendrait ce qu'elle avait été. Ma langue maternelle et ma mère ne faisaient qu'un. À présent, avec l'extinction de la langue en moi, je sentais que ma mère mourait une seconde fois. Mais c'est finalement en travaillant la terre qu'il se crée de nouvelles racines. Il faudra des années au narrateur pour dépasser ce malaise et adopter une nouvelle langue.
Anibati l'Israël
Je suis arrivée en Israël en 1946, j'avais 13 ans et demi, presque 14 ans.
Et bli horim, lo yu li kvar horim, bli safa, bli haskala, ou bli orientatsia, lama ni nimtsa sham.
J'étais sans parents, orphelin, sans éducation, sans langue, et je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle j'étais là.
Lo haya li imi ledaber, az ha niyar, ha marberet, הפך להיות, המחברת הזאת הפכה לי לחבר שלי, להורים שלי, לסבים שלי, לבית שלי.
Je n'avais personne avec qui parler, et le papier, le journal, l'intime, ce cahier, est devenu mon ami, mes parents, mes grands-parents, ma maison.
Découvrant ses tout premiers écrits, témoignage de sa douloureuse reconstruction. J'aimais la terre, et en particulier les arbres dont je m'occupais. J'ai eu ces années-là un emploi du temps limpide. Levé avant le soleil, travail intensif de 6h à 8h, petit déjeuner complet et parfumé, puis travail continu. J'aimais la sieste des chaudes journées d'été. Durant ces années-là, une partie de mon être était en effet endormie. Les années de guerre avaient sombré en moi comme une pierre, et je m'attachais de plus en plus à la terre, à l'hébreu et aux livres que je lisais avec une soif intense. Pour être aussi fidèle que possible à ces années-là, je recopie des passages de mon journal. 30 décembre 1946. Aujourd'hui, j'ai appris l'élagage. Parfois, il me semble que je ne suis pas venu ici, mais que je suis né ici. J'aime tant la terre et les arbres qu'il m'est difficile de croire qu'il s'agit d'un amour nouveau. Si j'avais le pouvoir d'effacer les années de guerre de mon âme, je me fondrais plus facilement à la terre et aucune barrière ne nous séparerait. 17 janvier 1947. Aujourd'hui, il y a une mobilisation et j'ai travaillé au potager. C'est un travail de groupe. Les plants qui poussent une fois l'an me fatiguent. Tu plantes et récoltes aussitôt. À la plantation, au contraire, tu fortifies les arbres pendant des années. Tu ressens la joie de leur pousse, leur vie à chaque saison. Car l'homme est l'arbre du champ, ai-je lu dans la Bible. Seul un homme qui fait pousser des arbres peut comprendre cela. Un autre jour, sans date. Aujourd'hui, j'ai cueilli des prunes saintes roses, et c'est bien que je sois seul. Le travail en commun me donne le vertige. Plus grave encore, je cesse de ressentir et de penser. Ce n'est que seul avec moi-même que je grandis et me lie à la terre. Et plus loin, le moniteur M m'a demandé incidemment à la pause de 10h où j'étais pendant la guerre. La question m'a tellement surpris que je suis resté bouche bée. Dans beaucoup d'endroits, ai-je choisi de dire pour éviter une conversation superflue. M m'a cependant poussé à parler, et je me suis senti emprisonné dans le mutisme. Une frayeur s'est emparée de moi, et ma mémoire s'est éteinte. Je n'ai su que dire et répéter dans beaucoup d'endroits. 13 août 1947. Chaque nuit, je me répète, oubliez plus et plus encore. Plus j'oublierai, plus l'union avec la terre et la langue sera facile. Les obstacles sont nombreux. Hier soir, j'ai eu une longue conversation avec la monitrice S. Nous avons parlé allemand et pourtant les mots me venaient facilement. Apparemment, on ne peut pas déraciner une langue maternelle. J'ai fait un rêve. Maman, papa et moi, nous baignons dans la rivière. Deux longs radeaux passent devant nous. Maman et papa sont si jeunes. Ils ressemblent plus à des lycéens qu'à des parents. Je m'étonne un instant de leur transformation. Maman me serre contre elle et dit « C'est un bal masqué. Bientôt, tout redeviendra comme avant. » La sonnerie du lever m'a réveillé et a déchiré le rêve en lambeaux. 8 jours plus tard, dans les rêves, je suis encore sur les routes, traqué, et je tombe dans des trous profonds. Hier soir, l'un de mes poursuivants a réussi à m'attraper par les chevilles et m'a fait tomber dans un trou profond. Je suis tombé. J'ai coulé, et c'est bien que je me sois réveillé sans avoir été frappé. Seul celui qui a du mal à parler a besoin d'un journal. Lorsque je regarde mon journal, je découvre qu'il est plein de phrases inachevées, de l'obsession d'être précis, et que l'espace entre les mots parle plus que les mots eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, mon journal n'est pas un témoignage au flux abondant, mais une expression inhibée. Mon écriture à ses prémices fut plus retenue que déliée. Elle était comme un prolongement de mon journal. Quelque chose de ma façon de parler l'avait imprégnée. La crainte permanente qu'une impropriété quelconque ne m'échappe et me dénonce, qui caractérisait ma façon de parler même longtemps après la guerre, s'exprima dès mes premiers écrits. C'est en vain que j'essayais d'améliorer le flux. Mon écriture était une sorte de marche sur la pointe des pieds.
Chaque jour, je lis deux paragraphes, trois paragraphes de la Bible. Et mon contact avec la langue biblique, cette langue biblique, c'est comme du bon vin. Et j'essaie d'apprendre cette transparence. La transparence de cette langue. La langue dit, si tu peux le faire et le dire avec moins de mots, alors fais-le ainsi. Si tu as trois mots, si tu peux dire la même chose en deux mots, alors dis-le en deux mots. Si tu peux ne rien dire, alors c'est encore mieux.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Menken leben une groschen, une dire Geld. Mit gur nicht in die Taschen und frei in die Welt. Ha doch leben une Liebkeit, dus ken gur nicht sein. Dus ken gur nicht sein. Mi ken leben una Masel, es ist nicht a Feile. Mir ken sein a Schlemasel und treffen die Zrie. Ha doch leben ohne Liebkeit, dus ken gur nicht sein. Dus ken gur nicht sein. Du siehst doch, as ist Krankheit, lieber vor dem ersten Blick. Du siehst doch, as ist Schwachheit, wenn sie geht mir a Kick. Richtig. Mecken leben wie a Ganef, wie a Schnorrer, a Zar. Und schlecht war bringe du's Leben, nicht sein Kanach. A doch leben ohne Liebkeit. Dus ken gur nicht sein. Dus ken gur nicht sein. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non. Ne le pourrait pas. Moïse singt in die Teure, gläubig und nicht. Der erste ken oben Meure, tu me lieb ken nicht. A doch leben ohne Liebkeit. Na 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 na. Dus ken gur nicht sein.
Une dizaine d'années plus tard, le narrateur a délaissé l'agriculture pour la littérature et en 1962 paraît son premier livre, Fumée. Dans le passage qui suit, il se souvient du climat qui entoura ce premier acte éditorial. L'occasion pour l'auteur de clarifier sa relation avec l'écriture et le rapport qu'il établit dans ses écrits avec la mémoire collective et intime. Mon premier livre reçut un accueil favorable. Les critiques dirent Appelfeld n'écrit pas sur la Shoah, mais sur les marges de la Shoah. Il n'est pas sentimental, il est tout en retenue. Cela était considéré comme un compliment dont je me réjouissais, et pourtant déjà le qualificatif « écrivain de la Shoah » me collait à la peau. Il n'y a pas d'appellation plus irritante que celle-ci. Un véritable écrivain écrit à partir de lui-même, et la plupart du temps sur lui-même. Et si ses propos ont un sens, c'est parce qu'il est fidèle à lui-même, à sa voix, à son rythme. Le sujet n'est qu'un sous-produit de l'écriture, non son essence. J'ai été un enfant pendant la guerre. Cet enfant a mûri, et tout ce qui lui est arrivé ou s'est produit en lui a eu un prolongement dans ses années d'adulte. La perte de la maison, la perte de la langue, la méfiance, la peur, la difficulté de parler, l'étrangeté. C'est à partir de ces sensations que je brode la légende. Seuls des mots justes construisent un texte littéraire et non pas le sujet. Je ne prétends pas apporter un message, être un chroniqueur de la guerre ou une personne omnisciente. Je me relie aux lieux où j'ai vécu et j'écris sur eux. Je n'ai pas l'impression d'écrire sur le passé. Le passé en lui-même est un très mauvais matériau pour la littérature. La littérature est un présent brûlant, non au sens journalistique, mais comme une aspiration à transcender le temps en une présence éternelle. Remontons aux sources de l'écriture et écoutons l'écrivain nous délivrer quelques clés de son esthétique. C'est à l'enfance que l'écrivain attribue l'origine de sa vocation et la source de son inspiration. C'est là que son regard sur la vie se forme. Durant la guerre, Erwin passe son temps à observer son entourage sans quasiment parler. Puis, pour tenter de se libérer du cauchemar traversé, il commence à écrire à l'adolescence. Bien des années après, devenu l'écrivain brillant que l'on connaît, il nous éclaire sur sa manière très personnelle de transformer les souvenirs en matériaux littéraires. Ma poétique personnelle s'est formée au début de ma vie. Et lorsque je dis « au début de ma vie », je pense à tout ce que j'ai vu et perçu dans la maison de mes parents et durant la longue guerre. C'est alors que s'est déterminé en moi mon rapport aux hommes et aux croyances, aux sentiments et aux mots. Ce rapport n'a pas changé avec le temps. Ma vie s'est pourtant enrichie, j'ai amassé des mots, des termes et des connaissances, mais le rapport fondamental est demeuré tel quel. Durant la guerre, j'ai vu la vie dans sa nudité, sans phare. Le bien et le mal, le beau et le laid se sont révélés à moi, mêlés. Nous avons l'habitude d'entourer les grandes catastrophes de mots afin de nous en protéger. Les premiers mots de ma main furent des appels désespérés pour trouver le silence qui m'avait entouré pendant la guerre et pour le faire revenir vers moi. Avec le même sens que celui des aveugles, j'ai compris que dans ce silence était cachée mon âme, et que si je parvenais à le ressusciter, peut-être que la parole juste me reviendrait. Mon écriture fut d'abord un claudiquement pénible. Les épreuves de la guerre grouillaient en moi, lourdes et pesantes, et je voulais les refouler plus encore. Je voulais construire une nouvelle vie sur mon ancienne vie. Il m'a fallu des années pour me retrouver, mais une fois cela accompli, la route était encore longue. Comment donne-t-on une forme à ce contenu brûlant? Par où commence-t-on? Comment relier les chaînons? Quels mots utilise-t-on? Sur la Seconde Guerre mondiale, on écrivait principalement des témoignages. Eux seuls étaient considérés comme l'expression authentique de la réalité. La littérature, elle, apparaissait comme une construction factice. Moi, je n'avais même pas de témoignages à offrir. Je ne me souvenais pas des noms de personnes ni de lieux, mais d'une obscurité, de bruit, de gestes. C'est uniquement avec le temps que j'ai compris que ces matières premières étaient la moelle de la littérature et que partant de là, il était possible de donner forme à une légende intime.
Regardez. Écoutez. Sentir.
La mouche.
Toucher. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes parce que pendant mon enfance, j'ai exercé mes sens, saisir le monde par l'entremise de mes sens. Et lorsque l'on dit art, qu'est-ce que l'art? Une conception du monde grâce à vos sens. L'intellect, c'est quelque chose d'autre. C'est une couche supérieure. Peut-être pas la plus importante.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Alain Joubert à la technique. Elle a été préparée par Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser. L'œuvre d'Aaron Appelfeld est disponible aux éditions de l'Olivier, tout comme le récit de sa traductrice Valérie Senati, intitulé « Dans le faisceau des vivants ». Bonne soirée à l'écoute de France Inter, à la semaine prochaine.